Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Voici un écrivain qui a disparu en 2013, discrètement. Et pourtant, si nous aimons vraiment lire, il nous faut faire connaissance avec ses livres. Il en a publié une trentaine. Je parle ici de Michel Chailloux. Pour lui, écrire permettait d'entrer en contact avec une vie plus vivante que la vie. Un livre devait être une rencontre inouïe qui dérange nos petites morts à nous autres qui vivons de la simple vie de l'espèce. Car, pour Michel Chailloux, vivre c'était savoir que nous sommes en manque de mots, que nous avons soif de paroles. Michel Deguy écrit à propos de Michel Chailloux, je cite « Étrangement, il cherchait une langue par livre pour se mettre à l'écrire, et d'un écrivain qu'il n'appréciait pas, il disait volontiers qu'il n'avait pas de langue. » En 1990, Alain Weinstein l'avait invité, à l'occasion entre autres de la réédition aux éditions du Seuil, dans la collection Fiction et compagnie de « La petite vertu, 8 années de prose courante sous la Régence » et de « L'Hexaméron », un livre collectif écrit par Michel Chailloux, Michel Deguy, Florence Delay, Natacha Michel, Denis Roche, Jacques Roubaud, et que les auteurs présentaient ainsi. Notre Hexaméron est le récit par des voix différentes de 6 journées de création littéraire, une genèse donc. Comme nous n'étions que 6, la question du repos du 7e jour ne s'est pas trouvée posée.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Disposons que de mots, les espèces lumineuses du ciel d'alors, soleil, lune, étoiles, celles plus friables des choses, disparurent avec les ombres qui les marchandèrent. Du jour au lendemain avec Michel Chailloux, à l'occasion de la réédition dans la collection Fiction et compagnie au Seuil de son livre La Petite Vertu, 8 années de prose courante sous la Régence, et de sa participation à un volume collectif, toujours aux éditions du Seuil, dans la même collection, L'Hexaméron.
Thank you.
Toujours maître de conférence à Paris 13, Michel Chaillou, pas foutu à la porte encore.
Non, pas encore foutu à la porte. J'enseigne dans un IUT à l'Institut universitaire de technologie, place du 8 mai à Saint-Denis, pas loin de la basilique.
Les sciences de l'information et...
De la communication, c'est-à-dire qu'en fait, j'enseigne ce qu'on appelle dans les IUT les techniques d'expression. En fait, j'enseigne à lire et à écrire la littérature. Et c'est ça l'essentiel de mon travail.
Drôle de travail.
Drôle de travail, mais qui a à la fois ses avantages et ses inconvénients. Il y a des moments où je suis très heureux d'être avec des jeunes gens qui ont entre 18 et 20 ans et de leur apprendre les choses qui me paraissent belles. Alors forcément, je les inonde de livres, à la fois le dernier livre paru qui me paraît intéressant, comme des livres anciens. C'est-à-dire que j'essaye de les faire rentrer peu à peu dans la culture de leur propre langue, ce qui n'est pas toujours chose facile. Il y en a qui résistent, d'autres, leurs intérêts sont ailleurs, ce que je comprends fort bien. Mais j'essaye d'installer dans leurs intérêts l'intérêt de la littérature.
Et c'est toujours un peu comme si vous étiez vous-même encore à l'école.
Mais moi, je suis toujours enfant devant les mots. Et en définitive, oui, je n'ai jamais quitté l'école. Enfin, je suis rentré tard à l'école, puisque j'y suis rentré à l'âge de 20 ans, 21 ans.
Mais, en maternelle
En maternelle, oui, quasiment. Je dis tout le temps à un de mes amis, Michel Deguy, j'aurais pu l'avoir comme prof alors qu'on a le même âge. Parce qu'il était brillant, agrégatif, agrégé de lettres. Et moi, je passais ce qu'on appelait à l'époque le premier bac par l'école universelle. On s'est retrouvé un peu depuis. Quoi.
Enfin, bon, vous avez fait des progrès, d'accord.
Quelques progrès.
Il reste beaucoup à faire.
Il reste beaucoup à faire. Des fois, je dis à mes étudiants, une fois je leur ai dit à leur grande stupéfaction, mais qu'est-ce que je vous enseigne en définitive? Parce que la littérature, je sais de moins en moins ce que c'est. Mais je sais de plus en plus ce qu'est la langue. Et c'est ça peut-être que j'essaye de les faire progresser, quoi, en définitive.
Quand vous dites que la littérature, vous savez de moins en moins ce que c'est, vous m'inquiétez un petit peu. Vous voulez dire que les ouvrages que vous publiez maintenant n'ont plus rien à voir avec la littérature ?
Non, pas du tout. Ce que je pense, c'est que je trouve que le mot est faible pour désigner une activité qui me semble plus forcenée et plus intérieure que cela.
Qui déborde.
Qui déborde, oui. Et en définitive, à chaque fois on dit c'est littéraire, quand on fait référence, c'est un peu péjoratif, on dit, quelqu'un est littéraire. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'un texte est grand, c'est qu'il touche le fleuve profond qui nous inonde intérieurement toutes nos nuits, en définitive. Et donc, c'est pour ça que le mot littérature me paraît un mot un peu ornemental, comme jardinage par rapport au jardin ou aux fleurs. Le jardin, lorsqu'il est réussi, c'est une métaphysique. Donc, un état d'âme. Donc, en définitive, c'est pour ça que le mot littérature ne me paraît pas toujours convenir pour caractériser cette activité.
Toujours membre du comité de rédaction de la revue Poésie, pas foutu à la porte.
Pas toujours, pas foutu à la porte.
Et vous n'avez pas mis les autres non plus dehors.
Je n'ai pas. Ah non, moi, c'est pas mon genre. Je ne pratique jamais l'exclusion. Et puis, on a une amitié. C'est une occasion de se voir et de parler des choses que nous aimons. On a une réunion trimestrielle. Et puis, bon, c'est vrai que Michel Deguy est mon frère, même malgré nos différences intellectuelles et littéraires, et tous les autres de Jacques Roubaud aussi, qui sont vraiment de plus intimes, et puis tous les membres du comité de rédaction, chacun accepte les différences de l'autre, quoi. C'est même ça la vie.
Poésie, ça passe mieux que littérature ?
J'ai un peu le même discours par rapport à la poésie, mais dans la revue Poésie...
Ça vous barbe la poésie un peu quand même.
Ça dépend laquelle. Pour moi, les deux plus grands poètes de leur génération, c'est Jacques Roubaud et Michel Deguy.
Vous les aimez, ceux-là ?
Oui, je les aime, oui. Pour des qualités différentes, d'ailleurs, ils ont chacun leur propre vision. Et moi, je suis peut-être dans la revue Poésie, celui qui est à la place de cette lettre un peu bizarre qui se trouve au milieu de la revue, j'oublie tout le temps son nom, c'est cette lettre qui n'est pas un E et qui... Bon, disons que je suis peut-être la lettre rouillée du groupe, quoi. Enfin, je veux dire, pas du groupe, de la revue.
Et voilà. Qui en même temps lui fait le lien,
la
cheville ouvrière.
Je sais pas si je suis la cheville. Il y a d'autres chevilles ouvrières. Il y a Pierre Auster qui est remarquable, et d'autres, Robert Marteau et Robert Davreux, etc. Claude Mouchard, qui est magnifique. Et donc, enfin, je vais pas faire que leur.
Vous créez l'ambiance, quoi.
Je crée pas l'ambiance. Chacun se charge de la porter. Et donc, il y avait, hélas, quelqu'un est mort récemment, Max Leroux, dont je salue ici la mémoire. Et qui était un remarquable écrivain.
Poète.
Poète, philosophe.
Qui a écrit sur Dubuffet.
Dubuffet, dont il avait été le secrétaire. C'était un homme d'une discrétion et d'une force remarquable. Donc, voilà, quoi. Alors, donc, c'est bien de participer à une revue. Ça fait maintenant... C'est Michel, un jour, Michel Deguy, qui m'a demandé un jour d'y entrer. Donc j'aime
Donc vous y êtes et vous y restez, mais vous n'êtes pas sectaire. À l'occasion, vous collaborez à d'autres
revues,
vous n'avez pas peur.
Hein, absolument, oui.
Un peu partout. Bon, avant, il y avait les Cahiers du Chemin, mais ça, c'était une grande époque.
Une grande époque, oui.
Et puis la NRF, et puis la Nouvelle Revue de Psychanalyse, ça vous arrive aussi?
Oui, ben, tout ça pour une raison d'amitié. Au début, j'ai rencontré Michel Grébinski, qui est l'assistant de Pontalis, que je connaissais par ailleurs, et qui m'a demandé d'écrire. Et comme le principe de cette revue remarquable, c'est de faire appel à des écrivains sur un thème, les psychanalystes s'exprimant sur le même thème, ça m'a intéressé parce que brusquement, je me suis intéressé à la psychanalyse. Ça correspondait à un moment où je m'intéressais à la psychanalyse. Mmh. Et je m'y intéresse de plus en plus, d'ailleurs, pour des raisons
romanesques. Les divans, réservés à d'autres
usages. C'est pas pour moi. Je m'intéresse pas à moi-même. Mais je m'intéresse à l'écriture que met en scène la psychanalyse. Et puis parce que aussi dans la Nouvelle Revue de Psychanalyse, c'est pas une revue qui s'affirme comme littéraire, et donc ce désir de sortir du littéraire et de la littérature au profit peut-être d'une grande activité intérieure, puisque moi quand je lis Flaubert ou que je lis Saint-François de Sales par exemple, j'ai pas le sentiment du tout d'être dans la littérature, je ne sais plus où je suis dans le sublime, en définitive, et donc... Donc ça m'intéressait de collaborer à une revue qui ne s'affirme pas comme littéraire. Parce que si elle s'affirme comme littéraire, les revues... Vous allez me dire, Poésie est une revue littéraire, mais c'est une revue...
Travail.
De travail, oui. De travail et d'examen des textes, des jeunes textes. Des jeunes écrivains peuvent envoyer leurs manuscrits, on les examine.
Et de traduction aussi.
Et de traduction ouverte sur toutes les littératures, en particulier sur la littérature anglo-saxonne, mais sur toutes les littératures. Mmh. Et donc ça, c'est quand même une revue qui a elle a des défauts, comme toutes les revues, comme nous avons tous des défauts, mais quand même,
elle a une certaine tenue.
On a tous des défauts aussi.
Ah, je ne vous en connais pas beaucoup.
Oh, si, je n'aurais pas l'outre que je suis têtu, volontaire, entier, absolu, tolérant. D'une extrême tolérance. Mais en même temps, d'une grande passion.
Ça se termine où, la tolérance?
Ah, il y a des choses sur lesquelles je ne transige pas ou je ne serai pas tolérant. Politiquement, je ne suis pas très tolérant. Il y a des choses que je ne mettrai jamais. Les extrêmes, l'extrême droite en particulier, s'il faut rappeler les choses par leur nom. Le fascisme, là, je ne suis pas tolérant.
L'extrême gauche?
L'extrême gauche, quand elle prend la forme du fascisme, je suis tolérant aussi. Je ne suis pas tolérant. C'est dans ça, il n'y a pas de mystère. Je suis un homme qui croit à l'humain et donc qui le défendra farouchement. Et le crétinisme, que ce soit en politique ou ailleurs, m'est insupportable.
Vous devez souffrir, hein ?
On souffre tous, mais il y a aussi des gens intelligents. Ça existe, des gens qui font croire en la réalité de l'espèce humaine. Ça existe aussi. Moi, j'ai tendance plutôt, par optimisme profond, peut-être par pessimisme retenu, à parier sur le positif de chaque être et à oublier les mesquineries, les négligences. On peut tous tomber dans ce genre de travers quand la situation vous y plonge. Mais il faut oublier ça au profit de la noblesse. C'est peut-être de la naïveté.
Oui, peut-être un petit peu, mais c'est ce qui fait votre charme. Vous savez bien, d'ailleurs.
Peut-être, mais la naïveté, c'est la forme profonde de l'étonnement.
Alors, quelquefois, Michel, on se dit, mais qu'est-ce que ce type, aussi doué et intelligent, fait dans l'enseignement? Et puis, la réponse, on l'a quand on consulte votre biographie. C'est qu'en fait, ça vous laisse du temps, beaucoup de temps, pour faire autre chose. Votre collaboration à toutes ces revues... Il n'y a pratiquement plus une revue qui paraît sans un texte de vous, même Art Press, un numéro sur le théâtre.
C'était un interview. Jacques Henrich, très gentiment, est venu m'interviewer sur le théâtre, parce que j'ai écrit une pièce de théâtre. C'était une commande du ministère de la Culture, du temps de Robert Abirached, et le théâtre me fascine. Et donc,
depuis longtemps.
Depuis très longtemps, oui. J'ai un de mes livres qui s'appelle Théâtre Wasserman, et aux éditions Gallimard, on me l'avait fait changer à l'époque parce que on trouvait que théâtre n'allait pas se vendre, et ça s'est pas plus vendu, puisque j'ai mis collège, parce qu'il y avait c'est un régisseur qui parle d'un théâtre imaginaire. Un théâtre intime, on pourrait dire. Donc le théâtre me fascinait tout le temps, donc j'ai écrit une pièce de théâtre, qui est d'ailleurs en lecture au Théâtre de la Colline. Ils ont l'air intéressés par la pièce, mais c'est très long. Il y a 3 ans qu'ils l'ont, mais enfin...
Il y a plus de 3 personnages ?
Il n'y a que 2 personnages.
Ah bon, alors ça va.
Et donc, je crois que là, en ce moment, je ne m'occupe pas beaucoup de mes affaires, c'est ça le problème. Et puis c'est une pièce qui se déroule en Islande, c'est mon premier essai, il doit y avoir des défauts, sans nul doute. Il y a aussi, j'espère, des qualités. Si elle est montée, un jour, je retravaillerai certainement certains aspects du texte, puisque... Je découvrirai comment le texte passe dans la bouche des comédiens. C'est une histoire d'amour. Ça s'appelle Feu tournant. Elle est inédite, donc, pour l'instant. Et il y a un homme de théâtre de Lyon qui m'a écrit à la suite du numéro d'Art Press. puisque je disais que cette pièce était en lecture et qu'il voudrait la lire, donc je vais lui envoyer, mais comme je suis paresseux, ça fait 15 jours que je l'ai, que je n'avais pas à la poste pour la porter, quoi. Enfin bon, c'est bon, ça c'est mes négligences. Je déteste écrire des lettres, mais j'ai des défauts.
Vous ne voulez pas demander à votre épouse de mettre le courrier à la poste à votre place?
Oui, elle me l'a proposé, mais non, quand même, faut pas que j'abuse. Ouais. Elle est trop gentille.
C'est votre côté féministe, ça?
Oui, c'est mon côté un peu démago, peut-être. Mais c'est vrai que je respecte beaucoup les femmes, et donc faut pas abuser.
Faut pas qu'elles portent des paquets.
Faut pas qu'elles portent des paquets. Voilà, je suis assez costaud, 85 kilos. Ça, voilà.
Pourtant, on verra tout à l'heure, quand on va parler de la réédition de La Petite Vertu, qu'à l'occasion, quand même, vous l'utilisez comme collaboratrice, votre femme.
Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je l'utilise dans La Petite Vertu, elle est collaboratrice, mais elle ne signe pas le livre avec moi.
C'est vous qui signez tout ça?
Non, c'est son nom figure dans le livre. Mais dans une collection de la littérature dont les premiers livres vont
paraître. J'allais y venir, parce que c'est quand même un titre qui est plaisant, ça. Histoire brève de la littérature française.
Oui, hein? Exactement, oui.
Et c'est une collection que vous allez diriger chez Attier, je crois.
Je dirige.
Vous dirigez, mais enfin les premiers volumes...
paraissent en mai.
Voilà, on les a pas vus encore. C'est une histoire assez personnalisée et assez aventureuse qui ressemble pas du tout aux histoires auxquelles nos professeurs de français nous ont habitués.
Oui, c'est pas du tout une conception qui est contre les manuels de littérature qui existent, qui remplissent leurs offices avec plus ou moins de bonheur auprès des étudiants et des scolaires. Ça, c'est une histoire de la littérature qui vise le grand public qui veut se cultiver. C'est en fait un grand roman de la littérature française, et je me suis dit, c'est anormal que des écrivains que j'ai la chance de connaître, car c'est une chance pour moi de connaître des gens aussi remarquables, vivent dans leur coin et travaillent, et il n'y a pas d'entreprise collective pour les rassembler. Vous les rassemblez au hasard d'une émission de radio, et c'est ce qui fait votre charme, si je peux ainsi vous retourner le compliment. Mais en même temps, je rêvais d'une entreprise collective rassemblant des écrivains, où je mettais les gens les qui me paraissent les plus importants. Et
les gens qui ont un contact direct passionnel avec la littérature,
des écrivains. Il y a quelques universitaires, parmi les plus brillants, qui font les débuts de la littérature. Ça commencera des origines au XXe siècle y compris. Pour l'instant, il y a 27 volumes en préparation, ce qui n'est pas une mince affaire. Et il y en a 6, pour l'instant, qui sont prêts. 4 volumes vont paraître en mai. Moi, j'ai assuré avec ma femme à égalité, on signe Michel et Michel Chaillou, puisque nous avons le même prénom. C'est une chance.
Qu'est-ce qui fait votre charme, tous les deux?
Tous les deux. Michel et Michel Chaillou. Et c'est sur la période que j'adore énormément, quoi, que ça fait des années que je lis dessus. C'est la période de Henri IV, Louis XIII. Mais c'est conçu comme un roman, c'est-à-dire on va se promener dans les rues du XVIIe siècle, on va rencontrer des écrivains. C'est-à-dire que c'est fondé sur la notion de biographie, de vie. Mais étendue d'une façon un peu abusive, il y aura la vie des écrivains, mais la vie des objets, la vie des idées, la vie des livres. Mais on se permettra, les commentaires sur les livres seront très discrets. On essaye plutôt de creuser l'appétit, d'avoir une envie folle d'aller lire ces écrivains dont nous parlons, et en même temps, on ne fait pas de glose qui emmaillote le texte et empêche de le voir à travers les interstices. C'est ça un peu. Et chaque écrivain est libre de son imaginaire. Il apporte son imaginaire. Je le laisse absolument totalement libre. De quel droit je m'immiscerai dans l'imaginaire de quelqu'un? Donc voilà, alors les 4 premiers livres qui vont sortir, il y a le début du 17e par Michel, ma femme et moi-même, le début du 18e par Jean-Noël Varnet. Il y aura Michel Orcel et François Bodard qui font le début du 19e. Il y aura Jean Roudot qui fait les villes imaginaires dans la littérature. Pierre Pachet, Naissance du journal intime. Voilà les principaux livres. Et Pierre Lartigue qui va faire la seconde moitié du 16e siècle. Qui a fait la seconde moitié du 16e siècle.
Tel que je vous connais, Michel Chaillou, vous avez sans doute privilégié les chemins de traverse. Donc on risque d'avoir des surprises.
J'ai privilégié les écrivains, les hommes et les femmes qui participent à cette entreprise, qui est publiée par Attier dans le département de littérature générale. Il est peut-être trop tôt d'en parler, parce que les premiers livres paraissent en mai. Mais c'est vrai que ça se présente pas que... Il y a la précision historique, et c'est du roman. C'est-à-dire que c'est ça la gageure. C'est-à-dire
que c'est pas ennuyeux, quoi.
Non. Enfin, les manuscrits que j'ai lus jusqu'à présent me ravissent, donc j'espère que le ravissement sera partagé par les lecteurs.
Et méfiez-vous, parce que je vais vous dire, il y en a des romans ennuyeux aussi.
Oui, je sais, mais les gens à qui j'ai fait appel sont des gens de qualité, qui en général ne m'ennuient pas dans la vie, donc ils peuvent pas ennuyer le lecteur dans la littérature.
J'ai encore quelques nouvelles, quelques informations à donner, et qui vont peut-être vous faire rougir, Michel Chaillou, parce que je sais que vous n'aimez pas trop qu'on parle de vous, mais enfin, tout de même, je vais rappeler que sont en cours des traductions de certains de vos livres, comme Domestique chez Montaigne, qu'on traduit en italien en ce moment, hein, mes informations sont bonnes, et La croyance des voleurs, donc le roman le plus récent, est en traduction en portugais au Brésil.
Oui. Hein.
Et puis, ce roman, La croyance des voleurs, qui a obtenu le prix des libraires en 89, qui a été publié au Seuil, également dans la collection Fiction et compagnie, c'est devenu un best-seller, puisque je crois que vous avez atteint les 40 000 exemplaires, sinon dépassé.
Non, je n'ai pas été si loin. Pas encore, non.
Ça va venir.
Peut-être, j'espère. Mais ce qu'il faut dire, c'est que La croyance des voleurs...
Vous en êtes à 15 000 ?
Non, plus. La croyance des voleurs va sortir en poche. Il sort en poche en juin prochain. Et donc,
en point.
Dans le point roman, oui. Il sort en poche. D'ailleurs, je viens de faire, puisque dans le point roman, il y a des phrases qui sont extraites des articles les plus intéressants concernant le livre et qui donnent un éclairage sur le livre. C'est le principe de la collection point roman. Donc, on vient juste avec Denis Roche de sélectionner les phrases qui figureront au dos du livre. Et voilà, donc j'en suis très heureux puisque c'est un livre qui m'a demandé énormément de travail et c'est le début d'un cycle romanesque que je veux faire aux éditions du Seuil puisque cette maison d'édition a été parfaite avec moi.
Et pourquoi vous ne voulez pas dire que quand même que vous avez atteint les 40 000 parce que vous avez peur que ça se sache
D'une part, et puis non, je ne suis pas un auteur de best-seller.
Ici, on ne répète rien, hein, vous pouvez tout nous dire.
Non, je ne suis pas un auteur de best-seller et là,
vous allez le devenir, écoutez.
Je n'essaye pas. Si je gagne un peu d'argent, tant mieux. Mais je veux dire, c'est...
Regardez Philippe Soler.
Oui, mais je veux dire, ce que je pense, c'est que c'est un livre qui a eu beaucoup plus de succès que mes livres précédents, c'est sûr, et donc qui est destiné à faire lire les précédents, et donc de ce fait, c'est très intéressant pour moi. Et puis,
vous écrivez un livre pour qu'on lise les précédents.
Oui, aussi, en partie. Et puis parce que chacun de mes livres représente une tentative. Enfin, j'ai un besoin constant de renouvellement. C'est peut-être mon défaut. C'est-à-dire que dès que je sens que j'ai creusé une veine, je peux pas supporter de sentir que je l'exploite. Donc je suis quelqu'un qui creuse les mines, mais qui donne aux autres le soin de les exploiter. Donc je ne gagnerai jamais d'argent. C'est-à-dire que je change toujours de langue. Parce que chacun de mes livres m'impose leur langue. En fait, j'ai toute une théorie qui n'est valable que pour moi, qui est la suivante, que je peux vous exposer, et très brève. C'est, je pense qu'il y a des livres faits avec beaucoup de talent, qui n'ont pas de langue, et qui sont des constructions romanesques. Et la langue est apportée à leur insu par les lecteurs de leur temps. Et puis, quand cette génération de lecteurs disparaît, les constructions s'écroulent puisqu'il n'y a plus d'air à l'intérieur pour qu'elles respirent, pour que les êtres mis en scène respirent. Et puis il y a des écrivains, ceux que j'admire le plus, je n'ai pas la prétention d'y être encore parvenu, mais c'est mon dessein, qui arrive à faire sortir une construction de la langue. C'est-à-dire que c'est la langue qui apporte la construction romanesque. Là, on n'a pas besoin de l'air du lecteur, de la respiration du lecteur pour que le livre vit tout seul. Bien entendu, les générations de lecteurs qui vont se succéder vont lui donner une vie supplémentaire, bien entendu, mais le livre se suffit à lui-même. C'est les grandes œuvres de la littérature sont ainsi, c'est-à-dire les générations de lecteurs ont beau se succéder, le livre ne meurt pas parce qu'une génération est morte. C'est ça qui est bon. Alors ces livres en général sont plus difficiles à lire au départ parce que comme la construction sort de la langue et que la langue est inhabituelle puisqu'elle fait sortir d'elle-même une construction, il est normal qu'il y ait une résistance de la part du lecteur pour rentrer dans le teuf du livre. Mmh. Et c'est là où les profs, les libraires, etc., tous les gens qui parlent des livres peuvent raccourcir le temps nécessaire pour qu'on rentre dans ces livres.
Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire là, c'est exactement ce que vous vouliez dire quand vous êtes passé apostrophe, parce que je vous ai vu. Hein. Oui. Mais alors, dire ça sur un plateau de télévision, c'est difficile, ça passe pas. Hein. Je me souviens, vous étiez embarrassé comme ça, alors que d'habitude vous avez la parole un peu facile.
Oui.
Et même, vous avez fait une gaffe absolument monumentale. Oui. Il y avait qui sur le plateau avec vous? C'était Christine Arnotti ou Christine de Rivoire?
C'est pas une des deux.
Voilà, Christine de Rivoire. Oui, vous l'avez appelée Christine Arnotti, vous vous rendez compte? C'est ce lapsus-là que vous avez fait. Et pourquoi? Parce que vous pensez que tous ces écrivains se valent?
Je ne me permettrai pas. Je me permettrai pas un pareil jugement et déteste blesser quelqu'un. Donc, ouais. Je l'ai vraiment pas fait exprès. Enfin, je veux dire, c'est un lapsus, quoi. Mmh. Voilà.
C'est là qu'on apprend quand même à être un best-seller, hein, sur un plateau, quand on a les projecteurs dans la figure.
Au fond, la télévision est quelque chose d'à la fois de sidérant et qui est parfois très intéressant. C'est-à-dire que je pense que c'est très important de parler des livres à la télévision. Simplement, il faut traiter les gens en adultes, c'est-à-dire sans oublier qu'ils ont été enfants. C'est-à-dire que de leur parler de ce qui fait la matière même d'une œuvre et non pas seulement que de l'anecdote, quoi. Alors, parfois, dans les émissions de télévision qui passent, on y arrive. Et quand il y a une une complicité entre le meneur de jeu et l'écrivain. Et puis parfois c'est pas possible parce que le livre donc dont on parle peut avoir des qualités, mais c'est pas un livre qui appartient à la littérature. L'édition ne peut pas éditer que de la littérature. La littérature c'est autre chose, c'est-à-dire il y a plein de livres qui sont écrits avec talent par exemple et qui ne sont pas de la littérature, mais par exemple il y a des écrivains qui ont le génie de la construction ou des situations et qui n'ont pas de langue. Mais peu à peu, si ce sont des écrivains vraiment géniaux au niveau des situations, peu à peu se crée une espèce de métalangue qui est fait du frottement des situations inventées. Si je prends par exemple Georges Simenon, qui est un prodigieux écrivain d'une certaine façon, c'est pas un écrivain de langue, c'est un écrivain de situation, toujours la même, qui plonge dans le ragoût de la vie, au fond. Il y a une espèce de ragoût de la vie épicé que Maigret, tout dont il tourne la cuillère.
Un ragoût quand même dégraissé.
Dégraissé, oui, c'est vrai. Et c'est parfois génial dans les titres, Le chien jaune, il y a plein de... Alors, c'est génial dans les romans policiers. Qui s'affirme comme tel. C'est absolument mauvais quand c'est hors de le cadre du roman policier. Pourquoi? Parce que le génie de Simenon, à mon avis, je peux me tromper, avait besoin d'une convention pour pouvoir s'exprimer totalement. Il y a des gens qui ont besoin d'une... Et la convention du policier lui permettait de sortir hors de lui-même et de faire des œuvres géniales. Par contre, quand il rentrait dans ce qu'on appelle vulgairement la littérature, proprement dit, la noble, etc., avec ce que ça comporte de bêtises d'ailleurs, comme appellation, il y a plus de la convention est invisible. Et à ce moment-là, il était sans s'en rendre compte.
C'est à chacun de s'inventer la convention.
Voilà. Et je me rappelle d'un de ses romans qui s'appelle L'aîné des fers chauds. Parce que j'ai lu beaucoup de choses. Il y a une période, j'ai beaucoup lu Simenon. Parce que moi, j'ai essayé dans La croyance des voleurs de commencer un cycle de romans populaires. C'est-à-dire, je veux dire par là, de ne rien abdiquer de ma singularité. D'ailleurs, je pourrais pas, de toute façon. Et de ma difficulté, mais simplement de rendre ma singularité immédiate au lecteur. C'est-à-dire que brusquement, au lieu de passer, d'aller vers une singularité à travers des arcanes rhétoriques, brusquement, il ouvre le livre et il se trouve devant de la viande arrangée d'une certaine façon, peut-être jamais goûtée comme ça. Une manière, on me dit souvent que j'écris le français d'une façon particulière, mais Jodel, un écrivain de la fin du XVIe siècle, et on lui disait la même reproche, donc je suis conforté, Jodel est un écrivain génial. Moi, ça me dérange pas qu'on me dise ça. C'est vrai que mais pourquoi la langue serait-elle toujours écrite de façon convenue et déjà apprise? On peut respecter la syntaxe et la bousculer, la langue est en pleine évolution, donc j'essaye de... Qu'est-ce que ça veut dire vouloir écrire un roman populaire? Ça veut dire écrire, mettre en scène des personnages des bas-fonds, où j'ai vécu, donc du populaire, mais qui, sans les valoriser, comme ils ont été, comme je les imagine, et en même temps, ce sont des gens qui n'ont pas d'avenir, puisque quand on est dans le populaire et dans la misère, on peut pas se construire. La notion d'avenir est une notion bourgeoise. Mais par contre, ce sont des gens qui ont un destin. Et dans le fond, le roman populaire, c'est le roman du destin, et en définitive, j'ai commencé avec La croyance des voleurs,
ça, c'est pas
un grand
vision,
roman du destin.
C'est pas une vision marxiste, hein, des choses, quand même.
Pas du tout, pas du tout, c'est...
Marx, c'est quand même le 19e, hein.
Oui, mais je n'ai pas lu, je vais vous étonner, je n'ai pas beaucoup lu Marx, hein, c'est pas du tout ça. Mais je lis énormément de choses qui n'appartiennent pas à la littérature. Je lis beaucoup de feuilletonistes. D'ailleurs, j'ai écrit un feuilleton dont j'ai jamais fait un livre. Il y a quelques années, un ami qui dirigeait le monde de l'éducation m'a demandé, enfin en parlant un jour, je lui ai dit, tiens, je ferais bien un feuilleton, j'ai des difficultés dans l'enseignement actuellement, j'ai un groupe d'élèves, d'étudiants sympathiques, j'étais dans le même endroit, un IUT, il travaille pas beaucoup, j'ai envie de raconter notre histoire commune. Et alors il m'a dit, fais-le dans le monde de l'éducation. C'était donc un feuilleton mensuel et ça s'appelait « Le bonhomme de craie » ou « Un hivernage pédagogique dans les neiges de la Seine-Saint-Denis ». Ça a duré une année. Alors c'était un feuilleton que je ne savais rien au départ. Je racontais les tribulations d'un prof qui était moi sous un autre nom et ce qui se passait dans l'université. Et j'appelais les étudiants, je leur demandais l'autorisation par leur prénom. Et puis j'ai raconté nos mésaventures. Et à chaque fois que les lecteurs écrivaient sur chacune de ces épisodes, j'intégrais à la fois leurs insultes, leurs compliments, etc., dans l'épisode suivant. Et j'étais en communication avec la France entière, y compris les territoires d'outre-mer. J'avais des gens qui m'insultaient, qui étaient originaires de la Martinique. Je me rappelle un type qui comprenait rien, qu'est-ce que c'est que cette bêtise, etc. Puis à d'autres, j'avais des compliments. Enfin, tout ça figurait. Et ça durait un an dans le monde de l'éducation. Et donc, le feuilleton m'intéresse beaucoup, parce que c'est l'expression que je trouve extraordinaire, c'est l'expression « à suivre ». À suivre. Je trouve ça fantastique comme comme idée romanesque, en fait, je veux dire. Et au fond, c'est pour ça que j'ai commencé, je crois, avec La croyance des voleurs, un cycle romanesque de plusieurs volumes, qui pourront se lire de façon indépendante. Là, je commence le second, dont j'attendais la langue, parce que j'ai toujours les titres avant d'avoir les livres, et ce titre, je l'avais depuis très longtemps, depuis 10 ans.
C'est quoi?
Ah, je le dis jamais, tant que le livre n'est pas fini. Ah non, je peux pas le dire. Ça fait partie du secret du livre.
Non, vous allez bien nous le dire.
Non, je ne le dirai pas. J'ai beaucoup d'amitié pour vous, mais je ne vous le dirai pas.
C'est une information, quand même.
Non, je peux pas le dire, parce que ça me gênerait énormément de le dire. Parce que, imaginons que je dise le titre et qu'il vous plaise très peu.
Oui.
Ça me mettrait
en
doute.
C'est probable.
Ça me mettrait en doute de mon propre titre. Et me mettant en doute de mon propre titre,
ça me mettrait lui-même.
Oui, voilà. Et donc, je prends beaucoup de précautions pour ça. Personne ne le sait, ce titre. Et donc, c'est parce que dans le titre se cache...
Même pas
la
votre
langue,
épouse.
Si elle le sait.
Ah, vous voyez?
Oui, mais parce que c'est tout. Mais c'est je veux dire, le titre...
C'est vu votre nez qui s'allonge.
la langue, le livre est caché dans le titre. Donc maintenant, j'écoute le titre, je l'ausculte comme un indien qui pose son oreille sur le sol de la page. Je pose mon oreille sur le sol du titre et en écoutant, peu à peu, la langue monte. Et voilà, quoi.
Bon. Mais alors moi, je veux bien, Michel Chaillou, que vous soyez un auteur de feuilleton, fasciné par le feuilleton, mais tout de même, la différence, c'est justement la langue. Votre langue
Langue
extrêmement travaillée.
Oui, beaucoup, oui. Hein,
très imagée. On pourrait presque penser à une sorte d'argot littéraire.
C'est une belle formule, l'argot, parce que dans l'argot, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné dans l'argot. C'est la familiarité avec l'objet. L'argot, au départ, c'est un langage de voleur pour échapper aux gendarmes. Donc, un langage codé à l'intérieur du langage. Ben, je voudrais inventer un langage codé par la beauté, en définitive. Mais par contre, le mot familier me plaît beaucoup. Je veux que le langage soit familier avec ce qu'il raconte, qu'il laisse des traces de lui-même sur les objets et sur les personnages, qu'il y ait comme des empreintes, comme quand il fait très chaud, qu'il y a des empreintes de sueur qui restent sur le corps et qui ruissellent. Je voudrais qu'il y ait ça. Et quand il fait froid, qu'il y ait des glaçons. Enfin, je veux dire, qu'il y ait une familiarité de la langue avec les événements qu'elle raconte. Je ne conçois plus les livres où la langue est comme un instrument froid et impassible qui ne communique pas, qui ne copine pas avec ce que les choses racontent. Ça, c'est magnifique. C'est ce dont je rêve.
Autorisez tout de même, Michel Chaillou, à dire que ces temps-ci, on retrouve votre nom sur deux couvertures de livres disponibles en librairie, dans la même collection Fiction et compagnie au Seuil, puisqu'il y a La Petite Vertu. Alors, c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1980 chez Balland, hein, avec le sous-titre 8 années de prose courante sous la Régence. Et puis, votre participation tout à fait inédite, celle-là, à un autre livre, au titre un peu énigmatique, comme ça, quand on n'a pas fait beaucoup d'études littéraires, hein, L'Hexaméron. Et là aussi, il y a un sous-titre dans lequel on retrouve le mot prose. Il y a prose et prose. Hein. Alors donc, je crois que c'est le mot important, ça, qui relie les deux textes.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une... Je veux dire, bon, ben, il faudrait poser la question à mes petits camarades aussi, parce qu'on est six. C'est d'où l'Hexaméron. Le titre a été trouvé d'ailleurs par Michel Deguy. Et c'est à l'initiative de Denis Roche, sachant l'amitié qui nous unissait tous les six avec Denis. Et on a eu l'idée de faire quelque chose d'un peu collectif.
C'est le mot, alors, amitié.
C'est l'amitié, hein, oui. L'amitié profonde.
On ne peut pas parler de nouveaux groupes littéraires.
Peut-être que si. C'est difficile à déterminer, l'avenir le dira. Mais nous sommes à la fois très différents et en même temps très unis par peut-être par une exigence profonde et peut-être par une familiarité d'idées quelles que soient nos différences, que nous percevons mal. Et peut-être que nous produisons...
Mais vous êtes très différents les uns des autres.
Oui, peut-être que nous produisons cet ouvrage pour essayer de, inconsciemment de creuser à la fois nos ressemblances et nos différences.
Parce que tout de même, Denis Roche, qui est le directeur de la collection Fiction et compagnie, vous a photographié à deux reprises en montrant ce qu'on appelle des portraits de groupe, hein, et donc qui soulignent un peu cette... cet aspect-là de groupe littéraire, de nouveaux groupes littéraires,
qui, nous sommes
après Tel Quel, après Change, après l'aventure du chemin à laquelle vous avez participé, et qui maintenant, c'est un peu terminé, allait nous montrer de nouveau ce que les écrivains sont capables de faire et de dire quand ils sont ensemble.
Exact, oui. C'est-à-dire que, enfin, moi, je peux parler que pour moi, là. Faudrait donc demander aux autres membres du groupe ce qu'ils en pensent.
Non, ils sont pas là, on n'a pas.
Bien sûr. Hein? Mais, je pense, je peux dire la chose suivante, quant à moi. En définitive, ça m'a intéressé. Le travail de l'écriture est un travail solitaire, et en même temps, il faut aussi que le travail de l'écriture soit un travail collectif. C'est-à-dire, nous sommes, je crois, des écrivains qui nous intéressons pas seulement qu'à nous-mêmes, mais aux autres livres qui paraissent.
Vous êtes à peu près tous de la même génération?
Pas tout à fait, c'est-à-dire que...
Pas tout jeune, hein,
vous avez... Non, nous sommes des vieux cow-boys, comme disait Denis, cernés par la Sierra. Mais Florence et Delay et Natacha Michel sont nettement plus jeunes, et
ce sont des jeunes femmes. Elles ont une petite cinquantaine?
Ah non, pas du tout, non, elles sont beaucoup plus jeunes.
Ah bon?
Ce sont des jeunes femmes, et de remarquables romancières, ceci dit en passant.
Ça, je suis d'accord.
Bon. Et donc... Et
pourquoi il n'y a pas Daniel Salnave?
Ça, je veux dire, la question de ces, je sais pas, c'est pas posé, ça s'est pas fait du tout dans cette manière-là. Mmh. C'est-à-dire que ça s'est posé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a fait une manifestation en librairie, je sais pas si vous vous souvenez, au mois de mai, à la librairie Compagnie, chez Marie-Pierre Gallet, et puis, avec une première photo. Et puis ensuite, on a fait ce livre collectif où chacun, faut expliquer ce que c'est que l'Hexaméron. C'est...
Oui. Attendez, d'abord, ce que vous aviez en commun pour figurer ensemble sur une photo, faut quand même le dire, c'est que vous avez tous publié dans la même collection, Fiction et compagnie.
Oui, Florence n'a pas encore publié dans la collection, mais
ça va venir.
Oui. Et
donc l'Hexaméron.
L'Hexaméron, nous sommes Hexaméron parce que il y a l'Heptaméron de Marguerite de Navarre. Mais nous sommes six, donc c'est Hexaméron et non pas Heptaméron. D'autre part, dans les...
Il y a le Décaméron aussi.
Il y a le Décaméron de Boccace, puis il y en a d'autres, d'ailleurs, avant. Et puis dans les Heptamérons...
Il y a l'Heptaméron de... Ah bah oui, ça...
De Marguerite de Navarre. Oui. Et dans les Heptaméron de Marguerite de Navarre, c'est des gens qui s'arrêtent dans les Pyrénées,
ouais,
et qui sont arrêtés par la pluie, qui s'abritent dans une grange et qui commencent à raconter des histoires le temps que la pluie tombe. Et nous sommes répartis donc... les rôles, c'est-à-dire que chacun traite un jour de la semaine, et c'est une genèse. Et moi, je fais le lundi, puisque à la liste alphabétique, j'étais le premier. Donc, le lundi, ensuite, il y a Florence.
Ensuite, il y a Degui, parce que D, ça
Degui,
vient avant.
Degui, ouais. Florence, ensuite Natacha,
ensuite Denis,
Denis,
ensuite
Denis
Jacques.
Roche et Jacques Roubaud.
Voilà, Jacques Roubaud.
Voilà.
Voilà. Et ça, alors...
C'est six textes.
Selon Denis Roche, ce n'est pas un jeu.
Ah non.
C'est pas un jeu littéraire, c'est tout à fait sérieux, c'est
très
pas
sérieux,
non oui. plus un manifeste,
non.
C'est pas un programme,
non.
C'est une intervention.
C'est une intervention. Dit-il. Oui, il a raison.
Et il nous dit attention, il y en aura d'autres.
Oui, exact. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire une intervention? C'est-à-dire que c'est un moment ponctuel d'un choix de plusieurs personnes qui sont réunies à la fois par une amitié, une exigence en commun et peut-être des goûts différents et en même temps aussi des goûts communs. Et qui décident à un moment précis de leur histoire de publier ensemble des textes où s'affirment à la fois leurs différences et éventuellement leurs qualités.
Mmh. Ce que j'aimerais bien quand même, c'est un petit commentaire de ce sous-titre. Il y a prose et prose. Est-ce que ça signifie que vous rejetez la prose des autres?
Ah non, pas du tout. Ça veut dire tout simplement qu'il y a, que nous sommes des... Enfin, moi, je l'interprète de cette façon-là. Il y a une impertinence quand même. Et puis, il y a aussi le fait que plutôt que de gloser sans arrêt sur ce que doit être la littérature, faisons-la. Et on a vu paraître beaucoup d'articles où on disait la littérature, le roman, c'est ça. Voyez.
Daniel Salnave, par exemple.
Oui, parfois, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'elle dit, mais j'apprécie beaucoup Daniel Salnave. C'est pas, on peut ne pas être du même avis. D'ailleurs, moi, j'ai un tempérament qui me conduit à dire difficilement penser le général. C'est-à-dire qu'il y a, je pense plutôt le particulier. Je crois qu'il y a des mondes et des monadimes que le particulier rejoint. Forcément, il est normal qu'on essaye d'avoir une pensée qui va du particulier au particulier, donc qui aille dans le général. Et puis chacun cherche un peu sa voie. Moi, personnellement, dès qu'on me, on y a, je commence à lire des généralités sur le roman, ça me fait un peu rire intérieurement. Voilà, c'est ça mon propos. Mais je veux dire, je respecte tout à fait la pensée de Daniel ou de d'autres. Chacun travaille dans une direction ou dans une autre. Mais disons que nous travaillons de façon plus commune.
Mais ce qui est étrange, messieurs les prosateurs, c'est que tout de même parmi vous, il y a Michel Deguy et Jacques Roubaud qui sont avant tout des poètes.
Et Denis Roche.
Denis Roche a été un poète. Bon, maintenant il a grandi, il est devenu un prosateur. Et que, tout de même, c'est une espèce de manifeste du roman là, que vous proposez. Alors que quelqu'un comme...
C'est un manifeste de la prose.
Quelqu'un comme Michel Deguy n'a jamais écrit un roman, hein, ce qui n'est pas le cas de Jacques Roubaud.
Oui. Et c'est un manifeste de la prose, c'est pas un manifeste du roman, c'est un manifeste de la prose. La prose, qu'est-ce que c'est? Voilà, tout le problème est là. Et peut-être que la poésie n'est qu'une vantardise de la prose.
C'est un manifeste de la prose, dites-vous, mais en dehors peut-être du texte de Deguy, vous êtes des artistes de la prose, pas des intellectuels. Vous ne proposez aucune théorie.
Mais peut-être que la théorie est cachée dans nos textes comme l'épée est cachée dans le fourreau, et qu'on commence juste peut-être à le sortir, à sortir l'épée. Bon, je ne sais
ça
pas.
Ça va faire mal, alors. Il va y avoir du sang.
Non, pas du tout. Non, mais je veux dire que la théorie, si elle est... Au fond, chaque grand texte porte... Je ne sais pas si ce sont des grands textes, mais je veux dire ça, que chaque livre porte sa théorie en lui. Et il est normal que des gens, mûs par d'autres motifs, par d'autres pensées, essayent de penser la théorie cachée dans chacune des œuvres pour en sortir une théorie générale de la littérature. Il y a eu des exemples fameux de cela, et ça je le respecte tout à fait. Simplement, moi, ma manière de le lire fait que cette théorie générale de la littérature, je le lis à nouveau comme un roman, d'idées magnifiques, etc. Et moi, je ne suis pas du tout anti-théorique, je trouve, ni anti-intellectuel, ça serait stupide, mais simplement, quand je lis des textes, qui essaye de penser la littérature, je le lis, et c'est peut-être ça mon infirmité, je le lis comme un roman, un magnifique roman d'idées quand c'est réussi, et des choses nulles quand c'est pas réussi, c'est tout.
Autre livre, Michel Chaillou, Au Seuil, toujours dans la collection Fiction et compagnie que dirige Denis Roche, c'est La Petite Vertu, un gros livre quand même de plus de 400 pages, hein, qui est sous-titré 8 années de prose courante sous la Régence. Alors ces 8 années, c'est 1715 à 1723, c'est-à-dire de la mort de Louis XIV à l'avènement de Louis XV. Quant à la prose courante, c'est un mot que vous allez nous expliquer.
Oui. Alors, d'abord, faut expliquer comment est né ce livre. C'est-à-dire que c'est André Ballant, autour des années 80, qui voulait que je lui fasse une anthologie de la prose dite littéraire. Et puis, j'ai accepté. Puis, comme toujours, ça m'a barbé, oui. Et puis, je me suis dit, ça n'a pas de sens de faire des anthologies sur un siècle, alors qu'on voudrait faire une anthologie d'une heure ou d'une journée. Donc, j'ai cherché, comme ça, une décision. J'ai cherché une période de l'histoire qui soit très courte. Et j'ai vu la Régence. Et à ce moment-là, j'ai commencé à lire. Le hasard a fait que je travaillais à Saint-Denis à ce moment-là, et j'ai eu une amie, Nicole Simon, qui était conservatrice à la bibliothèque de Saint-Denis.
Vous allez nous raconter votre vie, hein?
Non, pas du tout. Et c'est une amie, et vraiment charmante, et qui m'a ouvert le fond de la bibliothèque, qui n'était pas, où il y avait plein de livres issus de la Révolution, qui n'avaient pas été répertoriés, et où il y avait toutes sortes de livres concernant le XVIIIe siècle.
C'est aussi bien que les estampes japonaises.
Oui. Et il y avait plein de livres de toutes sortes. Donc, alors j'ai commencé à les lire et je me suis aperçu que le temps était un écrivain, je le dis tout le temps, et que certains textes qui peut-être à l'époque étaient passés inaperçus parce que marqués trop par l'empreinte de l'époque, avec la distance du temps, finissaient par écrire une très grande beauté. Un exemple. Par exemple, je suis tombé sur une lettre reproduite, imprimée dans une correspondance d'un bourgeois de Marseille au moment de la peste à Marseille en 1720. Et qui écrivait à sa femme restée à Paris, et la syntaxe de sa phrase, syntaxe de son texte reproduisait la syntaxe de sa peur. C'était superbe, c'était à peine du français, et c'était superbe. Donc l'idée m'est venue de faire une anthologie de prose non littéraire, et je l'ai appelée courante parce que c'est le propos courant pour la distinguer, mais en même temps elle est dans la littérature, cette prose, sans le savoir.
Donc ce gros livre de plus de 400 pages, évidemment c'est un livre que vous n'avez pas écrit.
Si, en grande partie, parce que Ça commence par une introduction générale sur la fin du règne de Louis XIV et la description de sa mort, mais qui ne passe pas par Saint-Simon, parce que Saint-Simon est un tel écrivain qui gangrène de sa beauté tous les autres écrivains qui passent derrière et qui deviennent de ce fait des plagiaires. Donc j'ai pas voulu me servir de la description de Saint-Simon et de sa langue, que j'ai essayé d'oublier pour en retrouver une autre. Ensuite, chaque époque est présentée par moi, rappel des événements historiques, et l'époque attrapée par les odeurs, les parfums, etc.
Et c'est vrai tout ce que vous dites?
Tout est vrai. Et chaque texte, mon propre texte vient mourir au bord de chaque texte. C'est-à-dire à chaque année, j'ai fait une sélection des livres publiés cette année-là et que j'ai retenu simplement pour leur beauté, leur véracité, leur magnificence. Et chaque texte est présenté par moi, même les anonymes. Donc quand je peux pas présenter l'auteur, qu'est-ce que je présente? Voilà le problème. Et c'est un des mystères de ce livre. Et c'est aussi peut-être ce que j'ai voulu dire. C'est ça mon art poétique, en définitive. Et au lieu de terminer le livre par une conclusion générale qui ramasse tout, etc., je l'ai terminé sans conclusion, par un avertissement sur un enfant trouvé. Peut-être que ça plonge dans ma propre histoire, et ça annonce peut-être la croyance des voleurs. C'est-à-dire que j'avais lu une affiche qui avait été placardée dans les commissariats, sur laquelle on disait qu'il y avait un enfant été trouvé par le procureur. Quiconque, d'après la description, le reconnaîtrait, prière de se présenter. Et c'était écrit de façon tellement étrange et belle que j'ai présenté cet enfant, qui d'ailleurs, curieusement, s'appelle Jean Moulin, comme le héros de la Résistance. Peut-être que tout ça a joué.
Mmh. Et donc, vous n'allez pas nous dire encore une fois que ce livre doit se lire comme un roman?
Je crois que ça peut se dire que ça se lit comme un roman, mais c'est en même temps tout est vrai historiquement. Donc là, j'ai mis en place une au fond, si j'essaye de comprendre ce que je fais, car je le comprends de moins en moins, mais il y a une dimension historique chez moi, incontestablement. Il y a des époques dont j'ai la vision, c'est ma folie, disons. C'est en gros le 16e, 17e et 18e. Et maintenant, un peu le Moyen-Âge. Mmh, tout ce qui est avant la Révolution.
Un historien égaré dans la littérature.
Non, je suis un historien de la langue. C'est-à-dire, je pense que je reproche souvent aux historiens, mais pas tous, il y en a de merveilleux. C'est qu'ils se rendent pas compte que le style est un document historique. Donc, faut prendre en compte le style. C'est-à-dire, c'est là où les mœurs du temps ont été pulvérisées et nous attendent. Il faut savoir les lire. Et comme on n'a pas aucune précision scientifique pour les lire, ça devient, pour cela même, du roman. C'est-à-dire, c'est une hypothèse. Par exemple, je me posais des questions, quand j'ai écrit ce livre. Qu'est-ce que ça voulait dire, en 1710? Qu'est-ce que ça voulait dire en 1715, de quoi un homme se souvenait en 1715, par exemple, des choses de cet ordre, vous voyez. Donc, la petite vertu, c'est mon art poétique déguisé, c'est un document d'époque tout à fait authentique, et entouré d'une certaine vision du monde.
La petite vertu, c'est quoi?
La petite vertu, c'était le nom d'une papeterie qui existait réellement, rue des Arcis, à côté de l'église Saint-Méry. Et la petite vertu, c'est comme il y a un préjugé érotique sur cette période, j'ai voulu jouer sur le terme.
Non, avec vous, on n'a aucun préjugé érotique.
Eh ben, il y a un érotisme de la langue. Toutes les langues sont érotiques quand on sait bien les utiliser.
Quand elles tremblent?
Quand elles tremblent, oui. Il y a un tremblement de l'époque, là.
Les deux livres dont nous avons parlé, L'Hexaméron, donc un volume collectif auquel Michel Chailloux a participé, Au Seuil, collection Fiction et compagnie, les autres auteurs, Michel Deguy, Florence Delay, Natacha Michel, Denis Roche, Jacques Roubaud, et de Michel Chailloux seul, La Petite Vertu, 8 années de prose courante sous la Régence, édition du Seuil, Fiction et compagnie. Du jour au lendemain, Maurice Billard, Bernard Treton, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 14 mars 1990. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur franceculture.fr.